Bon, j'ai une impression, quand on sera avec Kiryat Arba, Hebron, Eretz Kanaan, Vayavo Avraham, Lispod le Sarah, Livkota. Donc, Sarah est morte à Kiryat Arba, c'est Hebron, donc, et Kanaan, et Avraham est venu pour faire son espède et pour la pleurer. Rachid dit, Nispod le Sarah Velivkota, Venismecha Amitat Sarah, l'Akedat Yitzhak. Le récit donc de la mort de Sarah, juxtaposé à l'Akedat Yitzhak, le fiché al Yadé Surata Akeda, parce que c'est, on entend, enfin, c'est lié à la nouvelle qui lui a été donnée de la Akedah, Shenizdamen Bena Meshrita, que elle apprend que son fils, était promis à une Shrita, Vekimat Shelonishrat, et que il a presque été Nishrat, Asparcha Nishmata Mimena Umeta. Sa neshama s'en est allée et elle est morte. Rabbi dit que c'est comme au Har Sinaï. Shelo yachlun neshamot Israël le kabel et ha hashra'a ruchanit ha'atsuma. Lachen parcha nishmatam. Mais otsem ha'asaga itava pirud neshama me'aguf. Au Sinaï, quand les Bnei Israël ont entendu la parole d'Hachem, l'expérience, si vous voulez, était tellement forte que leur neshama s'en est allée. Comme vous savez, quand ils ont entendu la première et la deuxième parole, ils ont été projetés en arrière, ils sont morts, ils ont ressuscité, etc. Mais ils en sont morts. De la même manière ici, c'est ce qui s'est passé avec Sarah quand elle a eu la nouvelle de la Akedah. Alors, quel que soit, il y a une marloquette pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle a appris dans la Akedah, enfin, de la Akedah. Est-ce que c'est quand elle a vu que Yitzhak avait survécu, elle est tellement choquée? Ou bien d'avoir entendu qu'il y avait ce projet, ou bien la façon dont ça s'est déroulé, etc. On ne sait pas exactement, il y a plusieurs chitotes, mais quelle que soit la façon dont elle l'a appris, le choc était tel que la neshama ne pouvait plus rester dans le corps, finalement. C'est exactement la même chose que le choc de la parole divine pour les Bnei Israël au Sinaï. Elle a ressenti très concrètement le moment spirituel, si vous voulez, qu'a été la Akedah. Et sa neshama ne pouvait pas le supporter en étant limitée à l'intérieur du corps. Pour ça que sa neshama s'en est allée. Il dit, la mort des tzadikim, ça fonctionne comme ça aussi. Marqué dans Tehilim, Yosef Rucham Igvaoun. C'est-à-dire, Igvaoun, ça veut dire, quand quelqu'un meurt, c'est une situation qui vient de ce que Yosef Rucham. Il y a eu un supplément insupportable, si vous voulez, de spiritualité. Avant que l'homme ne meure, il reçoit un supplément de rouar, un supplément de spiritualité, et le gouffre ne peut pas le supporter. Du coup, l'aneshama s'en va. Ensuite, le troisième, enfin, toute cette paracha est un limoud. Vayakom Avraham, me'al pnemeto. C'est-à-dire Avraham, il a son mort, il a Sarah morte devant lui. Il se lève, vaydaber el bnefet. Et il parle au goyim du coin, là. Ça, c'est kvod abriot. C'est le poids qu'il faut donner aux créatures. Bien qu'Abraham était à ce moment-là, il est onen, juridiquement, il est médouqué, il est frappé, il est triste, si vous voulez. Et il est venu, maintenant il vient pour faire dire le hesped de Sarah, pour la pleurer. Mais quand il vient parler avec les gens, il leur parle comme si de rien n'était. De façon complètement sereine. Parce que la paracha de même que la paracha de Vayera, c'était une paracha sur le chesed, la paracha de Vayera, c'est une paracha sur le derech eretz, sur le comportement qu'on doit avoir. Donc il y a, de même que dans la paracha précédente, il y avait un Shulchan Aruch de chesed, ici, il y a un Shulchan Aruch de Derech Eretz, de la façon dont on doit se conduire. On dit que quand le rav de Telge était sur son lit de mort, en fait, il a reçu la visite du rav de Kovno, et ils étaient en train de parler. Au milieu, le rav de Telge lui a dit, il faut que tu sortes maintenant parce que, comme tu es Cohen, et le processus de mort est en train de commencer. Donc il parle de son processus de mort à lui, quoi. Complètement serein. Quand il parle comme s'il était complètement détaché, quoi, quelque part. Il y a une halakha, il est en train de lui dire, toi t'es Cohen, donc tu peux pas rester. Tu peux sortir maintenant. Bon, la leçon de Derech Eretz, elle continue. Parce qu'à ce moment-là, Vayakom Avraham, Vayishtachu la'am ha'aretz libnei chet. Avraham va se prosterner devant eux. Raconte comment Avraham parle avec des gens relativement simples. Il se prosterne devant eux. Il va le faire une deuxième fois, un peu plus tard. Quelqu'un de... Il leur donne du kavod, même si c'est des gens très simples. Deux fois, la Torah mentionne qui sont Amaharetz, c'est les paysans du coin, quoi. Et Abraham leur donne plein de kavod. Il faut apprendre à parler avec les gens qui ne sont pas du même milieu que nous. Savoir comment il faut leur parler. Quel ton, pardon?
C'est vers le bas, c'est vers le haut.
Bon, alors vous connaissez l'affaire. Efron fait comme s'il veut le lui donner gratuitement, mais en fait, il lui donne à comprendre combien il veut exactement, une somme absolument astronomique. Et Abraham, il discute pas, il la lui paye. Sans problème. Un peu plus loin, on nous dit, Abraham, Zaken, Baba Yamim, Vachem Berach Abraham Bakol. Abraham est vieux, il est avancé en âge, littéralement Baba Yamim, il est venu avec ses jours. Vous vous souvenez, on a déjà dit plusieurs fois que Baba Yamim, ça veut dire il vient avec tous ses jours. C'est-à-dire il a fait quelque chose de chacun des jours de sa vie. C'est ça qui est important. Nous, dans notre vie, on a des moments où ben, on se demande qu'est-ce que tu as fait là cette semaine? Oh, j'ai rien fait. On est capable de ne rien faire. Non. Chez Abraham Avinu, ça n'existait pas. Il faisait quelque chose de chacun de ses jours. Et Hachem berach et Abraham bakol. Hachem a béni Abraham en tout, partout, avec tout. Alors les Chachamim disent dans la Gemara, ils disent que c'est quoi exactement ce bakol ici? Vous connaissez, on sait du Birkat Hamazon, le bakol, mikol, kol. Chazal disent qu'il y a trois personnages auxquels Akadosh Baruch Hu a fait le cadeau, en quelque sorte, de vivre dans ce monde-ci. Me'en Olam Haba. Quelque chose qui a le goût de Olam à venir. Olam qui vient. Ce sont les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chez Abraham, c'est marqué Bakol, chez Yitzhak, c'est marqué Mikol, et chez Yaakov, Yaakov, il dit Yeshli Kol. Et donc, Kol, c'est le niveau de Olam Haba. Alors, on va voir le Rashi et le Ramban là-dessus. Rashi dit, ce qui est bien connu, que Bakol, la gématria de Bakol, c'est 52. Et 52, c'est la gématria du mot Ben, fils. Et donc, c'est ce que dit Rashi. Bakol olé gematria ben. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que Rashi veut dire par là? A priori, une gematria, c'est pas un drash, c'est pas quelque chose qu'on acquiert enfin, auquel on arrive en sollicitant fortement le texte. Bon, c'est une lecture du mot. Il y a une lecture numérique, si vous voulez, du mot. Ça vient dire quelque chose de fondamental. Quand on nous a dit qu'Abraham Avinu, il a fait la guerre avec 318 soldats, et après on nous dit, mais 318, c'est la gématria de Eliezer. Donc en tout et pour tout, il avait Eliezer. Mais comme la gematria du mot Eliezer, c'est 318, alors c'est comme s'il avait eu 318 soldats. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire ici que Hachem lui a donné, il l'a béni en lui donnant un fils, c'est ça? Mais il n'avait pas de fils, justement, à ce moment-là.
Il a, à la mort de Sarah, il avait un fils.
Oui, mais vous avez raison. Mais à ce moment-là, donc c'est pourquoi est-ce qu'on dit qu'il lui a donné un fils? On le sait. Donc, parce que justement, certains disent que il lui a donné un fils et pas une fille. Alors voilà ce que dit le Ramban. Et Norman dit, le raboté nous baisait, il n'y a ni fla. Les Chachamim, là, ils disent une chose et c'est extraordinaire. Ils ont dit que Hachem Berach Avraham Bakol. Rabbi Meir dit, Shelo Aita Lobat. Rabbi Meir dit, la bracha qu'il lui a donnée, c'est un fils et pas une fille. Acherim omrim bat haitalo ou bakol shma. D'autres disent le contraire, il avait une fille. Elle s'appelait Bakol. Il dit les acherim, donc ceux qui disent que il avait une fille. C'est ce qu'ils lisent dans ce verset-là. Ils disent quelque chose d'Iramban, de très très profond. Ils ont, Chachamim nous dit ici quelque chose qui est de l'ordre des secrets de la Torah, en fait. Ils ont dit que Bakol, ça indique, ça ouvre sur quelque chose de très grand. C'est que à cause beaucoup, il a une mida, il y a une mida d'Hachem qui s'appelle Kol. Puisque lui, il est le fondement de Hakol, il a une mida, une façon de gouverner le monde qui s'appelle Kol. Et effectivement, Anochi Hachem osé Kol. Et le Ramban dit que c'est la huitième des 13 midot. La huitième dans les midot, dans les 13 midot, dans la version de Moshe Rabbeinu, c'est notre Tsar Chesed l'Alafim. Et il y en a une autre, il a une autre mida qui s'appelle Bat. Cette mida qui s'appelle Bat, elle est dérivée de la mida qui s'appelle Kol. Et c'est avec cette mida qu'Akadosh Baruch Hu gouverne le tout. Il gouverne le monde. C'est-à-dire, cette mida-là, c'est la mida qu'on appelle Malchut, qui est la royauté d'Hachem. C'est quand Hachem gouverne le monde en tant que roi. Et cette Mida-là, elle était, pour Abraham, c'était comme sa fille. Lui, il est un homme de Chesed, et il se conduit d'après avec cette mida de Chesed. Donc, notre Chesed là à la fin. Donc, le Ramban nous enseigne ici combien il faut faire attention quand on explique les enseignements de Chachamim. Parce qu'a priori, les Acherim qui sont cités dans, que le Ramban cite ici, eux, ils disent il avait une fille qui s'appelait Bakol. Ça donne à comprendre. Enfin, on pourrait penser là que c'est le nom de sa fille. Et le Ramban dit, il dit que c'est pas du tout ça le pshat. Il explique que Acherim, les auteurs de cette interprétation de Bat, de Bakol, pardon, avec Bat, enfin, c'est l'interprétation de Ben, finalement. C'est comme si, voilà, Ben veut dire, là, eux ils disent, voilà, il a une fille aussi. Mais c'est pas comme ça que le Ramban l'interprète. Ramban, je parle uniquement de Ramban comme commentaire de ça. Je veux dire que, et le Ramban nous dit, Acherim vient de nous dire quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on croit, et quelque chose qui est extrêmement profond, extrêmement et assez extraordinaire finalement. Le Ramban a donc dit, Kol, le mot Kol, ça fait référence, ça veut dire chesed, tout. Et la mida qui dérive de cette mida de Chesed, c'est la mida de Malchut, qui est la mida avec laquelle Akadosh Baruch Hu gouverne le monde. Alors, comme vous savez évidemment, les midot qui nous sont présentées comme étant les midot d'Hachem, elles nous sont présentées parce que elles nous sont proposées comme des modèles. Nous, on est censé s'inspirer de ces midot et essayer de nous conduire aussi avec ces midot-là. Les midot d'Hachem, c'est donc les c'est ce qu'Hachem nous a dévoilé concernant la façon dont il gouverne le monde. C'est bien sûr que ce ne sont pas des attributs. On n'est pas en train de dire ici que ça nous dit quelque chose d'Hachem. Parce que sur Hachem, on ne peut rien dire. Même que l'on appelle Hachem, même le tétragramme, ce n'est pas vraiment un nom, ça ne nomme rien. Simplement une façon de nous dire comment Hachem gouverne le monde. Mais nous, on ne comprend rien à tout ça. Dévoilement de ces midot, c'est seulement pour que nous l'imitions, en fait. Donc, Hachem a dévoilé la mida de Chesed pour que l'homme lui-même devienne un Baal Chesed. Et Avraham Avinu, il est devenu le Baal Chesed. Donc, du coup, il a dévoilé la mida de Malchut aussi pour que l'homme aussi arrive à ce niveau de Malchut. Et où est-ce qu'on voit qu'Abraham a acquis ce niveau de Malchut? C'est les gens là, les Amoratsim là-bas, les Chet, ils disent à Abraham, Nasi Elohim ata betochenu. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Malchut Shamaim. C'est-à-dire La royauté d'Hachem, ce qu'ils nous disent, c'est un prince d'Elohim. C'est ça qu'il a dévoilé. Hazan nous disent que cette Mida de Malchut, chez Avraham Avinu, c'était comme sa fille, c'est Kebat. Donc lui, il était un homme de Chesed, et de ce Chesed-là, il en est arrivé à devenir roi, en fait. C'est ça le but de l'exercice. Voit ici que il y a chez Abraham ici un dévoilement de quelque chose qui a à voir avec les temps messianiques. Temps messianique, c'est le temps où la royauté d'Hachem se manifestera. Vous vous souvenez, on a dit la royauté dans la version Meller, c'est la royauté acceptée. Donc les temps messianiques, c'est un temps où tout le monde reconnaîtra qu'Hachem est le roi. Et cette situation-là, d'une certaine manière, elle a déjà existé au temps d'Abraham Avinu. Parce que le chesed d'Hachem, on a cette mida-là de notre chesed là, la fim, elle se dévoile chez quelqu'un grâce au, et chez disons, oui, grâce auquel la royauté du ciel va se dévoiler. D'accord? Nasi Elohim à table. Alors, ça existe chez Abraham Avinu, mais alors pourquoi on n'est pas arrivé au bout? Pourquoi il n'est pas devenu Mashiach? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que les gens ont continué de pratiquer l'idolâtrie?
C'est comme si on enfin, parlait de mutation de l'Amida, mais comme une restriction de la royauté d'Hachem sur les hommes.
Oui, c'est-à-dire que la royauté d'Hachem, elle dérive de Chesed, donc, et ça fonctionne chez l'homme aussi. Si l'homme travaille sur la Mida de Chesed, ça dérivera, ça va générer pour lui un statut de Melech.
Alors, comment se fait-il que
Pardon?
le prince il a un comportement avec un
Il reconnaît qu'il est roi, mais s'il peut le. Il pense qu'il est roi, mais on peut essayer de le tromper. Et donc, il lui tient un regard. Parce qu'au contraire, il lui montre, extérieurement, il montre tout le kavod, pas du tout, tu es le roi, on va te le donner, on te donne ça gratuitement. Mais en passant, il lui souffle, en passant, ce que je te donne, ça vaut 412. Alors, il montre que moi, je voudrais bien les 412. Mais comme tu es le roi, je suis obligé de te dire que je te le donne gratuitement. Mais je n'en crois pas un mot, moi, je veux quand même les 412. Abraham, il a mis en marche, si vous voulez, le Klal Israël. De telle sorte que, grâce au clan d'Israël, cette malchoute du ciel va pouvoir se dévoiler. Mais ça se dévoilera complètement seulement au temps messianique. Parce qu'à ce moment-là, le chesed, c'est-à-dire en fait, le chesed d'Hachem, il veut que nous le reconnaissions, Hachem, dans le monde. Et ça va se faire effectivement grâce à celui qui est appelé Nasi Elokim. Le kol, ça veut dire, on a dit, kol c'est Chesed. Ou Bakol, c'est la fille de Chesed. C'est-à-dire la Malchoute, la royauté. Là-dedans, comme ça, Hachem dévoile son intention par rapport au monde. Pourquoi est-ce qu'il a créé le monde? Ben justement pour cette malchoute, pour arriver à cette reconnaissance de la malchoute. Et tout le processus, pour arriver à la malchoute, il faut utiliser la Mida de Chesed. Parce que si on utilise l'autre façon d'arriver à la malchoute, c'est-à-dire la violence, quoi, s'imposer violemment contre. Alors on n'arrive pas à la malchoute, on arrive à la Memshala. Hachem devient Moshel à ce moment-là. Ça, c'est donc l'épisode mort de Sarah, enterrement de Sarah. Le deuxième grand sujet de cette paracha, qui parle de la vie de Sarah, mais qui se déroule entièrement après la mort de Sarah, le nouveau sujet, enfin le deuxième sujet, c'est le problème du mariage de d'Yitzhak. Mon cher, Avraham Avinu a pris conscience au moment de la Akedah que, enfin, qu'il a un peu tardé et qu'il aurait dû s'occuper de marier Yitzhak. Parce que si Yitzhak avait été marié et il aurait pu avoir des enfants, alors même si Hachem avait laissé faire enfin, jusqu'au bout, il y aurait quand même une suite. Une suite possible du peuple d'Abraham. Alors, Abraham dit à El Avdos Kan Beto, à Moshe Bechol Asherlo, il va parler à son serviteur, le chef de sa maison, celui qui gère tout ce qu'il a. Il va le faire, il va le faire jurer. Il va lui demander de jurer sur quelque chose qu'il va présenter là tout de suite. Alors bon, vous connaissez la Vous connaissez l'histoire, il va lui ordonner d'aller chercher une épouse pour Yitzhak. La raison pour laquelle Yitzhak ne va pas chercher lui-même une épouse, c'est que Avraham veut que l'épouse de Yitzhak ne soit pas une Cananéenne. Il veut que ce soit quelqu'un qui vienne de chez lui, on va voir. Et comme c'est en dehors d'Eretz Israël, et que Yitzhak a un statut de Ola, il n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. C'est pour ça que c'est pas lui qui va chercher sa femme. Alors, il y a un long récit, donc, de ce que Abraham charge Eliezer d'aller chercher une femme pour Israël.
Si on transpose ça dans les autres utopies, ça semble un peu contradictoire avec la vida de Chrétien dans ton avis. Parce que demander à quelqu'un qui a une fille, et dont on sait que lui, en vérité, il aimerait bien que sa fille fille, lui demander à lui d'aller chercher. C'est comme si on s'adresse à un chatrain pour un garçon. On sait que ce chatrain, il a une fille et qu'il rêve que sa fille épouse, disons, le fils de le barreau en question. Et puis on lui dit, voilà, s'il te plaît, trouve un chiot pour mon fils. Et puis
Oui, sauf que Abraham lui répond, lui dit pourquoi il peut pas. Il lui dit, c'est pas, tu n'es pas en cause personnellement, mais tu es un descendant de quelqu'un qui est maudit. Qui est... Pardon?
Et le savoir aussi.
Il le sait, oui, il le sait. Et d'ailleurs, il y a d'autres candidats possibles. Abraham, il a trois copains. Ils sont des gens très très bien, mais ils ont aussi des filles. Mais il ne veut pas non plus que Yitzhak épouse ces filles-là. Il ne veut pas de Cananéenne, point barre. Parce que Canaan, c'est la malédiction de Noah. Noah a maudit Canaan. Et comme dit Abraham, je ne peux pas devenir mechoutane avec quelqu'un qui est maudit, c'est pas possible. Alors, ça, le seul problème, c'est que d'une certaine manière, on va voir par la suite que Eliezer va sortir de cette malédiction. Par sa conduite, il va sortir de cette malédiction. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas déjà le cas, si on veut, à ce moment-là, et que donc sa fille, elle est plus maudite si lui, il sort de. Bon, on va voir. En tout cas, il l'envoie à Eliezer et il dit à Eliezer, tu vas aller chercher une femme pour mon fils. Je veux en tout cas pas. Lotika Risha Libni Mibnot Aknaani Asher Anochi. J'habite parmi les Cananéens, mais il est hors de question. Mon fils épouse une Cananéenne. Mais tu iras, elle, Artsi, mon pays, El Moladti, le lieu de ma naissance, et tu prendras Isha Livni le Yitzhak. Qu'est-ce que va faire finalement Eliezer? Il va pas aller jusque-là. Il va aller, où est-ce qu'il habite? Laban, enfin Laban, c'est Bethuel quoi. Il va à Aran, il va pas si loin. Abraham n'est pas né à Aran. Bon, de la même manière qu'Hachem a dit à Abraham, Lech lecha mais Molad techa aussi, et qu'il est déjà à Aran. Donc, quelque part, il faut lire que Molad, c'est sa patrie, le lieu de sa naissance, c'est pas la naissance physique, quoi. Quelque part, c'est le lieu de sa naissance, à un moment où il a quitté, en tout cas, le lieu de l'idolâtrie. Il est né à autre chose que l'idolâtrie. Et donc, pour que la chose soit certaine, pour qu'il n'y ait aucun problème, il le fait jurer. Il va lui demander de jurer. Donc, il jure qu'il fera ça. Et alors, Eliezer prend toutes les précautions. Il lui dit, mais, ok, tu me dis d'aller là-bas. Mais Oulai, L'autre ve'aïcha la lechet, acharai, et la aretzazot. Peut-être que je trouverai la fille qui est adéquate. Et peut-être qu'elle ne voudra pas venir avec moi jusqu'ici. Elle ne voudra pas quitter, elle, son pays. Alors, est-ce que je vais amener ton fils là-bas? Puisqu'on a trouvé la fille, bon, il faut, si la fille veut pas aller chez le garçon, il faut que le garçon aille chez la fille. Et donc, est-ce que je vais, il lui dit quand même, est-ce que je vais ramener ton fils, El Haaretz Asher Yatzata Misham? Est-ce que, en quelque sorte, on va boucler la boucle, c'est-à-dire on revient en arrière et je vais ramener ton fils là où tu étais avant de t'arracher à cet endroit-là? Abraham lui dit, prends garde, surtout ne le fais pas. Surtout n'amène pas mon fils là-bas. En aucun cas. Qu'est-ce qu'on va faire si elle ne veut pas? Alors il lui dit, Hachem Elokei Hashamayim, Asher Lekachani, Bet Avi, Bet Molad, Eretz Molati, Asher Diberli, Asher Nishbali, Lemor, Zaracha Eten Taretz Hazot, Hu Yishlach Malacho, Lefanecha, Velakarta, Isha Livni, Misha. Ça se passera bien. Si tu trouves la fille, elle viendra. Hachem va faire en sorte qu'elle vienne. Et si vraiment elle ne veut pas venir, bon, alors, tu es délié de l'engagement que tu as pris. En tout cas, même mon fils, tu l'amènes pas là-bas. Et donc, Eliezer a mis sa main sous la cuisse d'Abraham et il a juré. Donc, il a envisagé la situation. Alors, Abraham lui dit, ça se passera bien, et après il dit quand même, mais si jamais ça se passe pas bien, en tout cas tu n'amènes pas mon fils là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là si vraiment elle ne veut pas venir? Bon, ben, on sera obligé de, je serai obligé de, ben, il sera obligé de prendre une cananéenne, ou bien ta fille, ou bien les filles de mes copains. Alors, bon, il part avec toutes les richesses, avec un document qui montre que Isaac est l'héritier de l'extrême richesse d'Abraham. Quand Ah, il veut pas qu'il, il veut pas qu'il. D'abord, il lui dit, il peut pas sortir, c'est une Ola. Oui, ça voudrait dire qu'on recommence, c'est-à-dire il y a eu tout un processus qui s'est mis en marche avec Abraham. Si Yitzhak se retrouve tout recommencer, c'est-à-dire que finalement le chemin d'Abraham n'aura pas vraiment servi. Yitzhak doit refaire tout le chemin. Il va falloir aussi qu'il s'arrache, et éventuellement ses enfants s'arrachent de ce lieu là-bas. Pardon? Ben, il va se retrouver à l'endroit d'où Abraham est parti. Donc, on va recommencer, il va falloir refaire ce qu'Abraham avait fait. Non, non, ils ne passent pas complètement par le même chemin. Il y a des choses qu'ils font comme leur père, mais ils le font autrement. Mais lui, Yitzhak, justement, il n'a pas à s'arracher. Il est né. Il est le premier qui est né, le premier juif qui est né juif. Ça, c'est un changement. Son père, il ne l'avait pas. Son père, il est né goy. Il est né idolâtre.
Pourquoi dites-vous que nous sommes tous idolâtres qui sont des enfants du Christ?
Pardon?
Pourquoi dites-vous que nous sommes tous idolâtres? De pas, pardon, pas, guerre. Puisqu'il traque, il n'est pas guerre.
Ah non, parce que quand ils sont arrivés au Sinaï, il y a eu une guéroute généralisée de tout le monde.
Ah, je pense bien parce qu'il y a encore lui qui va bien.
Oui, ça c'est.
Oui,
Voilà. Et Jacob, effectivement, mais pas Israël. C'est-à-dire, c'est pas qu'il dit la famille peut plus mettre les pieds là-bas. Mais moi, mon fils, en tout cas, il ne doit pas. D'abord parce qu'il est une Ola, et parce que lui, il doit, faut qu'il, vraiment qu'il s'arrache. Une fois qu'on s'est arraché, on peut avoir, d'abord, il n'est pas allé pour y vivre, il est allé là-bas parce que c'était le seul endroit où il était en sécurité, je sais pas, par rapport à Essam. Donc, il a pris les richesses, etc., il est allé là-bas. Et bon, comment je fais pour comment il fait pour trouver la fille, quoi. Alors il va mettre au point un test. Alors il faut bien voir ici que c'est pas un truc de magie. Il n'a pas dit la première fille qui sort et qui porte une tenue bleu ciel avec un liseré rouge, je ne sais pas, ce sera elle. Il a fait un test, il a mis un test. Il a mis un test au point. C'est un test de chesed. On va voir si cette fille-là est une fille généreuse. Comment on va voir ça? Eh bien, il dit, voilà le test tel qu'il l'a formulé. Anahara, la jeune fille, Asher Omar Eleha Atina Kader, pense s'il te plaît, ta cruche, que je boive, et qu'elle me dise, bois, je vais aussi abreuver tes chameaux. Il dit à Hachem, ça c'est la preuve, ça c'est la fille que tu destines à Yitzhak. Voilà. Et lui, il a à peine terminé que Rivka arrive. Alors, elle est très belle, une jeune fille très belle. Y a pas, personne ne l'a jamais touchée, aucun homme l'a touchée. Elle remplit sa cruche, elle la remonte du puits, Eliezer se précipite et il lui dit, donne-moi à boire, donne-moi un peu d'eau de ta cruche. Alors elle lui dit, bois. Elle lui donne à boire. Il boit. Quand il a eu terminé, il dit, je vais aussi abreuver tes chameaux. Et donc, voilà, jusqu'à ce qu'ils aient bu suffisamment. Elle va, elle replonge sa cruche dans le puits, et elle va en courant au puits, etc. Et puis, elle puise pour les chameaux aussi. Et le Haïch, l'homme en question, il n'en croit pas ses yeux, quoi. Il est estomaqué. Comment son plan a l'air de réaliser parfaitement? Est-ce que Rivka a passé le test? Est-ce qu'elle a fait ce qu'il lui avait dit? Ma réponse est non. Elle n'a pas fait ce qu'il lui avait dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit, lui? Lui a dit, donne-moi à boire et à boire à mes chameaux. Elle lui a donné à boire à lui tout seul. Quand il a eu fini de boire, elle a dit, je vais donner à boire aux chameaux. Donc en fait, elle n'a pas fait ce qu'il a demandé, mais comme ce qu'il a demandé, ce n'était pas de la magie pour qu'elle fasse exactement ce geste-là. C'était révélateur de son chesed. Elle a fait mieux que ce qu'il a demandé. Sur deux points. C'est quoi les deux points où elle a fait mieux que lui, que ce qu'il a demandé? C'est que si elle lui avait dit, bois et je vais abreuver tes chameaux. Ça veut dire que, d'une certaine manière, elle le traite comme les chameaux. Et elle fait pas comme ça. Elle lui dit, bois, tu bois complètement. C'est-à-dire, tu peux boire autant que tu veux. Si elle lui avait dit, bois, voilà pour toi et tes chameaux. Alors, il ne peut pas tout boire parce qu'il faut qu'il en reste pour les chameaux. Là, il peut boire. Elle lui dit, bois, c'est pour toi. D'abord, donc elle fait mieux. Et puis, deuxième fois, deuxièmement, elle va une deuxième fois au puits pour ça. Elle va puiser une deuxième fois. Donc, elle se fatigue encore plus, donc pour lui. Donc, c'est vrai qu'elle n'a pas... Elle n'a pas réussi le test, si le test avait été un test de magie, quoi, quasiment. Alors, il n'aurait pas réussi. Mais comme le test serait censé, il doit révéler qui elle est, alors elle a réussi mieux que qu'on peut penser, qu'il pensait. Ensuite, oui. Pardon? Le chesed, c'est un chesed qu'elle fait, c'est les gestes qu'elle fait en sa faveur. Elle lui fait rien de très, elle lui fait rien de personnel. Elle le traite comme un humain et pas comme un équivalent au chameau. Elle voulait pas impressionner qui que ce soit. Elle, c'est une bana chesed. Elle conçoit pas de mettre un homme sur le même plan que des chameaux. Et si ça nécessite d'aller deux fois au puits, il ira deux fois au puits. Alors, il fait quelque chose d'incroyable, Eliezer. Quand il voit qu'elle... Vaikach ha'ish nezem zahav, beka mishkalo, shnei tzmidim al yadea, asara zahav mishkalam. Il lui donne des bijoux. Et après lui avoir donné des bijoux, il lui demande, dis-moi qui tu es. C'est-à-dire, il a donné les bijoux à quelqu'un qu'il ne connaît pas, il ne sait pas qui elle est. C'est seulement après qu'il s'avère qu'elle est la nièce d'Abraham. Non, elle n'est pas la nièce d'Abraham. Elle est la. Qu'est-ce qu'elle est? Aussi, oui, elle est
La petite nièce au
la
moins, je
petite nièce, disons, au moins, disons. Elle est la fille de Bethuel, qui est un descendant de Nahor. Et Nahor, c'est le frère d'Abraham. Petite nièce. Quand Eliezer raconte l'affaire chez à Lavan, puisque Bethuel est mort à ce moment-là, quand il raconte pas comme ça. Quand il raconte, il lui dit, il raconte que voilà, mon maître m'a fait jurer, etc. Et je lui ai dit, il raconte le test qu'elle a réussi parfaitement. Et il dit, va, je l'ai interrogé, je lui ai demandé, et je lui ai demandé, qui es-tu? Enfin, fille de qui es-tu? Elle m'a dit, bah, Betuel, etc. Va, si, manese, manapa, va, smidi, maliadea. Et je lui ai donné les bijoux. Donc, en fait, pourquoi il ne le raconte pas dans l'ordre? Parce que quand tu entends raconter ça dans le désordre, quand tu te dis, il est cinglé, il donne des bijoux à quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. Absolument pas. Mais lui, il était absolument certain que c'était la fille, quoi. À la limite, qui elle est, d'après ça, c'est pas tellement important. Parce qu'il a vu les qualités de la fille. Après, bon, c'est encore plus extraordinaire, mais il a vu les qualités. Mais ça, il peut pas leur raconter parce qu'ils vont dire, il est cinglé. On n'envoie pas nos sœurs, je vais pas envoyer ma sœur avec un fou. Alors, il lui raconte les choses comme l'autre peut l'entendre. Mais c'est pas comme ça que ça s'est déroulé. Et ensuite, bon, alors, eux, ils discutent, ils ont essayé de l'assassiner. Ça n'a pas marché, c'est Betuel qui est mort. Voulu l'empoisonner. Alors il a. Pardon?
Ça a l'air de
Oui, c'est pas. C'est vrai, on n'a pas. Bon, peut-être qu'elle a compris qu'il voulait assassiner Eliezer, donc elle a compris que celui qui est mort, c'est son père, mais c'est un assassin, enfin un candidat. Il voulait être un assassin. Alors, bon, après, ils vont essayer de, quand ils disent, ouais, on peut pas faire autrement, ok, mais peut-être qu'on pourrait. Elle pourrait rester encore un peu, comme ça, pour s'habituer à l'idée, à toi, etc., avant de partir. Sous-entendu, on t'a pas eu, mais si tu restes un peu plus longtemps, on arrivera bien peut-être à te tuer. Parce que le tuer, ça voulait dire faire main basse sur tout ce qu'il avait amené. Mais alors, il leur dit non. Alors, j'ai vu qu'en fait, ça dépend. Ça dépend à quel âge, parce qu'il y a une discussion. Certains disent que Rivka avait 3 ans, d'autres disent qu'elle avait 14 ans, etc. Et certains disent que Yitzhak, il a un din de Kohen Gadol. Et donc, il doit prendre une betoula, prendre une fille vierge. Et il peut pas prendre une fille qui a plus que 12 ans et demi, parce qu'une fille qui a plus que 12 ans et demi, elle n'est pas obligatoirement vierge, parce que peut-être l'hymen est desséché, ou etc. Donc elle est pas vraiment de tout là. Et donc il leur dit, certains lisent qu'il faut lire comme ça, quand il leur dit, ne me retardez pas, je suis pressé. Si elle était justement en âge de éventuellement passer du stade de Nahara au stade de Bogeret, c'est-à-dire de passer la barre des 12 ans et demi, après il pourrait éventuellement plus l'épouser d'après ça. Bon, certains disent simplement il veut rentrer parce qu'il a fini sa mission et il est pressé de rendre compte de la mission qui lui a été confiée. Et il a bien compris que c'est pas par C'est pas pour la fille qu'ils veulent le faire rester. Il sait très bien qui l'a fait. Et donc finalement, il part. Avec elle. Et il arrive. Et elle voit de loin. Elle voit Yitzhak et elle est effrayée par le bonhomme, en fait, par la stature du bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a d'effrayant à voir au loin quelqu'un? Il faisait pas 3 mètres de haut, je veux dire. Chazal disent qu'elle a vu qu'il priait avec les bras vers le haut. Et ça, en principe, on n'a pas le droit de le faire, sauf les gens exceptionnels, quoi.
Mais elle ne savait pas.
Mais elle le savait, parce que c'est tout. Donc, c'est ça qui l'a effrayée, peut-être que c'était pas seulement une halakha, mais que on priait pas comme ça, prier comme ça voulait dire qu'on était quelqu'un de spécial et qu'elle est un peu effrayée de la pensée d'aller épouser ce bonhomme qui est déjà, qui a, elle épouse quelqu'un qui est hors norme déjà. Donc, c'est ce qui va s'avérer d'ailleurs. Il est hors norme, mais ils n'auront jamais un dialogue, pas de dialogue entre Rivka et Yitzhak, parce qu'on ne peut pas parler avec Yitzhak avec ce qu'il a vécu. Il a vécu la Akedah, certains disent qu'il est mort, une deuxième neshama qu'il a eue, mais enfin, même si c'est pas une deuxième neshama, il a quand même vécu quelque chose de suffisamment traumatisant pour qu'on puisse pas lui parler comme on parle à n'importe qui. Et Rivka ne lui parle pas. Ce qui ne va pas l'empêcher de faire ce qu'elle veut faire. Mais elle ne lui parle pas. Elle ne peut pas lui parler.
Avec l'arbre de coup, il n'y a aucune communication, c'est le seul exemple.
C'est un peu particulier comme exemple. C'est pas un couple qui ne veut pas parler. C'est un couple qui ne peut pas parler, quoi. Ils ne peuvent pas. C'est pas qu'ils ont décidé, ils sont pas brouillés, c'est pas qu'ils veulent pas se parler, mais quand on dit qu'ils ne parlent pas, vraisemblablement ils se parlaient le courant, mais il n'y a pas vraiment de dialogue profond, il n'y a pas le dialogue qu'il y a entre Sarah et Abraham.
Est-ce que c'est là qu'on voit la portée de Rivka, l'essence de Rivka? Parce que Isaac, lui, il est devenu Ola, il est devenu arabe avant le mort, il est passé devant son père. Vous avez dit que c'était déjà qu'il est descendu de la Kida en étant
Oui, parce qu'Abraham, il est occupé à autre chose.
Voilà, alors, ça veut dire qu'il a atteint très tôt. Sans avoir l'expérience des années, il atteint très tôt un niveau.
Ben, il n'est pas tout jeune non plus, hein, à ce
Quel âge
moment-là.
il a quand tu montes sur la critère?
Non, il a 37 ans.
37 ans, bon, par rapport aux 120 ans de notre femme, il est un petit peu plus haut. Hein. Il n'a pas l'expérience du.
Il a une autre
Il
expérience.
a justement, il a une autre expérience qu'il a acquise avec très très
La
tôt dans son
Akedah,
enfance.
ouais,
Et Rivka, peut-être, parce que ce manque de communication, ils ont quand même une vie commune. Est-ce que ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de parole pour se parler, pour se communiquer? Un A, il va à l'essentiel. Et elle peut-être, il comprend qu'elle a atteint ce niveau où elle est dans l'essentiel. Elle a pas les paroles comme Sarah, beaucoup parlé. Sarah s'est beaucoup exprimée. Elle n'a pas parlé. Elle va l'essentiel dans son esprit.
à la limite, je dirais que même l'essentiel, elle ne le dit pas. Elle ne peut pas le dire pour, je sais pas, enfin, je sais pour quelle raison, mais elle ne dit jamais la vérité sur Essav qu'elle, elle connaît à Israël. Ne lui dit pas. Alors, si on dit que ce qu'elle connaît, elle le connaît parce que par prophétie, quoi, finalement. C'est ce que déjà, quand elle est allée consulter Hachem, comme on dit, et que, en fait, ce qu'elle a consulté, c'était Shem, mais vers la yeshiva de Shem et Ever. Mais donc, c'était probablement des prophètes, ces gens-là. Et donc, ils lui ont dit par prophétie quel genre d'enfant elle va avoir. Donc elle le sait. Ce qu'elle sait des sables, elle le sait par prophétie. Et la règle générale, c'est qu'un prophète, ce qu'on lui a dit de dire, s'il ne le dit pas, il est passible de mort. Et ce qu'on lui a pas dit de dire, il n'a pas le droit de dire. Et donc, comme on lui a pas dit de le dire à Yitzhak, elle n'a pas le droit de le dire. C'est une situation, c'est un peu compliqué parce que avec cette même loi, on va avoir la situation terrible où Yaakov est assis à côté d'Yitzhak. Yaakov, il pleure la mort de son fils Yosef. Yitzhak sait qu'il n'est pas mort et il lui dit rien. Parce qu'il le sait par prophétie, il peut pas lui dire.
Derrière tout cela, qu'est-ce qu'on va comprendre?
Non, c'est difficile. Ça, la prophétie, c'est pas seulement, c'est une énorme discipline, quoi. C'est une maîtrise complète de la parole. Si tu es habitué, tu t'habitues à la parole d'Hachem, quelque part, tu peux pas avoir une parole comme Monsieur Tout le Monde, quoi.
Comprendre
Non, mais lui, il est du côté de la Gvoura et pas du côté du Chesed. La maîtrise de soi, et donc, il fait un travail. Je lui ai toujours dit que il creuse des puits et les gens sont invités à boire, mais il faut payer. Chez Avram, les puits étaient gratuits, puisque tu veux partir? Donc tu peux partir, hein? D'accord. Oh, mais ça va, c'est pas obligé de t'asseoir. Ouais, c'est.
Il
Faut payer, c'est la Gvoura, c'est-à-dire. C'est pas qu'il leur donne pas à boire. Vous voulez boire? Mais normalement, on paye. Vous avez des gens extraordinaires comme Abraham qui dit c'est gratuit parce qu'il veut qu'il le remercie et qu'il puisse leur dire c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Hachem. Ça, c'est le truc d'Abraham, quoi. C'est pas le truc d'Yitzhak. Yitzhak, il fonctionne différemment. Mais visiblement, il a une bracha pas possible. C'est sur lui qu'il a les Mea Shearim, etc. Pour les...
de voir ça il répond pourquoi louer là
Mais c'est lui qui a creusé le puits.
le travail
Bien sûr,
que son père fait
je paye.
ça c'est
Non,
pas
pas le... Non, non, mais... il a recreusé les puits à lui, ou il a recreusé les puits que les autres avaient bouchés. Il a creusé les puits, c'est pas son père qui a creusé les puits. Pardon? C'est aussi une façon de dominer par la force, par la puissance. Et c'est marrant que ce personnage qui a l'air d'être quelqu'un qui a aucune puissance, mais il est très puissant en réalité. Mais la puissance d'Yitzhak, c'est la maîtrise de soi. Mais c'est une maîtrise de soi qui fait que bon, les autres le craignent.
Mais Rav nous a dit qu'Abraham avait cette maîtrise de lui, parce qu'il a le mort devant lui
Il fait du Derech Eretz, il
donc
sait se conduire.
il a une maîtrise. pour pouvoir faire ça,
Oui, non, mais c'est une maîtrise. Ça c'est une maîtrise de DFRS. La maîtrise ici de, si vous voulez, la conquête de terrain, par exemple, ça se fait obligatoirement par la force. Tu fais la guerre et tu conquiers des. Donc, faire étalage de sa puissance, éventuellement, ça va permettre d'influencer. D'impressionner les autres, et les autres vont venir à Abimelech, etc. Tout le monde va venir ils veulent être en très bon terme avec Israël, qui voit que Hachem bénit, que tout réussit chez Israël. Donc il leur demande, mais que vous me détestez, pourquoi vous venez me voir? Rien de temps, parce que ça va bien chez toi, et on préfère être en bon terme avec toi. Tout.
C'est pour ça que les Japonais viennent se convertir dans les pays. Parce qu'en fait, vous venez, les Japonais dans les Chines, ils veulent se convertir parce que l'exemple des Juifs qui réussissent, ils veulent
Ah,
faire
c'est
ça.
les Coréens.
Ah, c'est
C'est
les
les
Coréens.
Coréens qui ont introduit l'étude du Talmud chez eux. Parce qu'ils disent les Juifs, ils sont intelligents, ça marche, parce qu'ils font le Talmud. Alors, ils ont fait traduire le Talmud en
Est-ce que
coréen
ça
et ils
marche?
travaillent le Coran. Enfin, les Coréens, vous avez suffisamment de téléphones et d'autres trucs qui viennent de Corée, hein. Alors, une chose qui est remarquable ici dans ce texte-là, c'est qu'on a parlé de la confiance que Abraham Avinu a en Eliezer, etc. Mais dans tout ce récit, le mot Eliezer n'est pas prononcé. Il est toujours présenté l'esclave. L'esclave, l'esclave, l'esclave d'Abraham. Son nom n'est pas prononcé.
J'ai du mal à me séparer de la connotation négative du mot esclave, parce que tel qu'Abraham considère Eliezer, il le considère très, très positivement, avec affection, avec respect, avec.
Oui, mais il y a une réalité qui est qu'il est maudit.
Oui, et le mot esclave.
Ah, il était son esclave, formellement. De même qu'Agar était son esclave de
Oui,
Sarah,
c'est une
il est son
connotation
esclave,
négative.
mais il est devenu un esclave. La Gemara, elle parle aussi de Rabban Gamliel, qui avait un esclave, qui était un Talmid Raham, et qui. Bon, c'était. C'est des gens avec lesquels ils vivent au quotidien, qui sont au courant de tout, qui gèrent les affaires, ils gèrent toutes les affaires d'Abraham. Voilà, on va s'arrêter là.